Ok, alors bienvenue donc dans cette deuxième partie de la réduction des endomorphismes. On va parler aujourd'hui d'éléments propres et de polynômes caractéristiques. Alors allons-y, le plan, donc je vais vous parler des éléments propres, c'est-à-dire des vecteurs propres et des sous-espaces propres. Ensuite, je vais faire quelques rappels sur les polynômes annulateurs de U et enfin donc le polynôme caractéristique d'un endomorphisme U. Donc le cadre, j'en suis à la diapositive numéro 3, je vais considérer U un endomorphisme de E, où E sera un espace vectoriel de dimension finie n. Et donc je considérerai B une base de E pour pouvoir passer de l'endomorphisme à la matrice associée à l'endomorphisme via la base B. Alors le but du jeu c'est donc de réduire U, et qu'est-ce que c'est que réduire U? Eh bien c'est de l'écrire sous une forme plus sympathique. Donc au lieu d'avoir des coefficients partout, on aimerait bien qu'il soit sur la diagonale idéalement, ou au moins par bloc, etc. Enfin avoir plein de zéros, ça nous spécifique. Alors, diapo numéro 4, on va commencer par définir ce que c'est qu'un sous-espace stable par U. Donc F est un sous-espace stable par U si l'image de F par U est incluse dans F. Alors à quoi ça sert? Ça me sert à dire que maintenant U restreint à F est un endomorphisme de F. Pourquoi? Parce que normalement U restreint à F c'est un endomorphisme qui va de F dans E. Mais voilà. Mais là maintenant je peux le faire de F dans F puisque son image est elle-même dans F, d'accord? Donc je passe d'un morphisme, enfin d'une application linéaire de E dans F à une application linéaire de F dans lui-même. Donc je peux le composer par lui-même un certain nombre de fois, ce que je ne pouvais pas faire a priori avant. Et donc la proposition, si jamais E, vous savez qu'il est somme directe de sous-espaces vectoriels, F1, F2, etc. jusqu'à FK, et que U laisse stable chacun de ces sous-espaces vectoriels FI, alors dans une base adaptée à cette décomposition, je vais avoir que la matrice de U, ça va être une matrice comme celle diagonale par bloc, où chacun des blocs, en fait, c'est la matrice dans la base adaptée de U restreint à FI. Alors ok, j'explique un petit peu tout ça. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une base adaptée? Eh bien, une base adaptée, ça va être, je vais prendre déjà une base de F1, je vais prendre ensuite une base de F2, une base de F3, etc., une base de FK. Je vais concaténer tous ces vecteurs, c'est-à-dire je vais les mettre ensemble, et ça va me donner une base de U, puisque F1 est somme directe avec F1. Puisque E plutôt est somme directe des F1, F2, F3 et jusqu'à FK. D'accord? Donc voilà, donc ça me donne ma base. Après, donc la première partie de la base de E, c'est donc la base de F1. Et comme je sais que U restreint à F1, enfin U laisse stable F1, donc ça va me donner une matrice carrée. C'est d'accord? Les vecteurs de la base de F1, ils sont envoyés seulement dans F1 et pas dans F2, F3, etc. Ok, donc comme ça, mon M1, c'est donc la restriction. La matrice de la restriction de U à F1, et ainsi de suite pour F2, F3, etc. Voilà, donc vous voyez que déjà, avec cette notion de sous-espace stable, je vais pouvoir commencer à réduire mes endomorphismes. C'est quand même plus sympathique d'avoir une matrice diagonale par bloc qu'une matrice quelconque. Alors, continuons. Deuxième étape, c'est la notion de vecteur propre. Alors, je vais, en fait, vecteur propre, ça vient de stabiliser une droite vectorielle. Si jamais je prends une droite vectorielle alpha x, ou alpha, donc ça varie dans k, c'est mon coefficient direct. Enfin, le vecteur directeur c'est x et le coefficient devant le vecteur directeur c'est alpha. Donc voilà, ça c'est une droite vectorielle qui est laissée stable par U. Alors on peut démontrer qu'il existe un unique alpha dans K tel que pour tout x de la droite, U de x est égal à lambda x. Ok, a priori le x il est envoyé sur alpha x et puis le 2x il est envoyé sur alpha prime x, etc. Donc là on voit que c'est un seul. On le montrera en exercice. Hein. Et donc on va maintenant définir, vous voyez, la U de x est égal à lambda x, mais c'est ce que je veux définir comme étant une valeur propre. Donc je vais dire que lambda est une valeur propre de U s'il existe un vecteur x non nul tel que U de x est égal à lambda x. Voilà, donc x ça va être un vecteur propre associé à la valeur propre lambda. Alors une remarque très importante, c'est que le vecteur propre x ne peut pas être nul, alors que la valeur propre lambda, elle peut être nulle. Voilà, donc si jamais x est un vecteur propre, ça veut dire que toute la droite des alpha x, d'accord, elle est stable par u, évidemment, d'accord, puisque 2x il va être envoyé sur lambda fois 2x, etc. Ok, et donc le spectre de l'endomorphisme, ça va être l'ensemble des valeurs propres de u. Donc je le note sp de u ou spectre de u. Donc je continue avec la notion de sous-espace propre. Donc si jamais lambda et appartient au spectre de U, je vais appeler sous-espace propre de U l'ensemble des E lambda de U, E lambda de U, qui est égal donc au quart de U moins lambda identité. Donc en fait, ça va être quoi le quart de U moins lambda identité, c'est l'ensemble des x tel que U de x moins lambda x est égal à 0, c'est-à-dire lambda, l'ensemble des x tel que U de x est égal à lambda x, d'accord ? Donc c'est en fait l'ensemble des vecteurs propres de U associés à la valeur propre lambda, ajouté du vecteur nul, d'accord ? Puisque le vecteur nul, évidemment, il va vérifier U de 0 moins lambda 0, ça fait toujours 0, d'accord ? Donc il est bien dans le quart. Voilà, et donc le sous-espace propre, eh bien, c'est un sous-espace. Vous voyez, si jamais vous dites le sous-espace propre, c'est juste l'ensemble des vecteurs propres associés à lambda, quoi, eh bien, ça ne va pas vous faire un sous-espace parce qu'il va vous manquer 0, puisque le vecteur propre, il n'y a pas 0 dedans. Donc voilà, vous dites que c'est le quart et vous ajoutez 0 donc, à l'ensemble des vecteurs propres, et puis ça vous fait donc un sous-espace vectoriel de E qu'on appelle sous-espace propre de U. Ok, donc la proposition, eh bien, c'est que ces sous-espaces propres, ils sont stables par U, soit. C'est-à-dire que U de E lambda U, donc E lambda U, hein, c'est mon sous-espace propre, c'est inclus dans E lambda U. Alors pourquoi ? Bah, je prends X dans E lambda U, et moi, qu'est-ce que je veux ? Je veux montrer que U de X est encore dans E lambda U. Donc il faut que je fasse le U de U de X. Okay ? Alors bah, je fais donc U de U de X, vous voyez que c'est U de lambda X, puisque X, il appartient à E lambda U, donc lambda, non, U de X, pardon, est égal à lambda X. Okay ? Voilà, et donc comme U est linéaire, U de lambda X, bah, ça me fait lambda U de X. D'accord ? Et je m'arrête là et je vois que donc U de X, celui que je veux, il est bien à lambda U de X, c'est-à-dire que U de X appartient à E lambda U. Bon, sur la feuille, c'est plus facile qu'à l'oral. Ok ? Alors, je continue. Quelque chose qui va beaucoup m'intéresser après, c'est la matrice de U restreint à son sous-espace propre. Pardon. Ok, donc je vous rappelle que donc E lambda U, c'est quoi ? C'est le quart de U moins X identité, c'est-à-dire que tous les vecteurs de E lambda U, ils vérifient si X appartient à E lambda U, U de X est égal à lambda X. Donc quand je regarde la restriction de U à E lambda U, eh bien ça me fait lambda fois l'identité, c'est-à-dire que la matrice de U restreint à un espace propre, c'est lambda sur une matrice diagonale, d'accord ? Voilà, alors ça, c'est encore mieux pour la réduction, parce que c'est même plus diagonale par bloc, là, maintenant, ça va être une matrice diagonale elle-même. Ok, donc voilà pourquoi est-ce qu'on s'intéresse beaucoup aux valeurs propres et aux sous-espaces propres, en fait, de l'endomorphisme, parce que ben, ça me donne directement, donc c'est stable, donc ça veut dire que globalement, c'est diagonale par bloc, et puis la petite matrice M1, M2, etc., elle-même est diagonale avec que des lambdas sur la diagonale. Ok, alors continuons. Décomposition de E en sous-espace propre, qu'est-ce que je sais ? Ben je sais que donc si lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda k sont des valeurs propres différentes de U, alors les sous-espaces propres E lambda I de U sont en somme directe. Alors ça ne veut pas dire que ça forme égale E, d'accord ? Ça ne forme pas tout E, mais déjà ils font eux-mêmes une somme directe. Voilà, le corollaire de ceci, c'est quoi ? C'est que quand je vais prendre une famille de vecteurs propres associés aux valeurs propres différentes, eh bien, elle va nécessairement être libre, puisque je viens de dire que la somme était directe. Alors, comment est-ce que je fais pour démontrer que la somme est directe ? Alors, je vais faire par la vieille méthode, donc celle qu'on n'aime pas, c'est-à-dire que je vais montrer, donc il faut que je montre hein, pour E lambda 1, E lambda 2, etc., jusqu'à E lambda k. Donc, il faut que je prenne déjà E lambda 1, E lambda 2, que je montre que l'intersection est réduite à 0, puis je fais la somme des deux premiers, E lambda 1 plus 1 lambda 2, je dois montrer que l'intersection avec E lambda 3 est nulle, puis je fais la somme des trois premiers, je dois montrer que l'intersection avec le quatrième, E lambda 4 est nulle, et ainsi de suite, d'accord ? Jusqu'à E lambda 1 jusqu'à E lambda 2 et plus jusqu'à E lambda k moins 1, je dois montrer que l'intersection de ce sous-espace-là avec E lambda k est nulle, ok ? Bon, donc ça va se faire par récurrence, et donc la mécanique de la récurrence, c'est quoi ? C'est qu'à un moment, je vais considérer, donc au rang... Donc j'ai supposé que c'est vrai jusqu'au rang i, et puis je vais démontrer pour le rang i plus 1, d'accord ? Donc je prends un xi plus 1, enfin je prends un vecteur plutôt, qui a à la fois dans xi, e de xi plus 1, et dans la somme e lambda 1 plus 1 lambda 2, etc., plus e lambda i, ok ? Donc ce vecteur-là, comme il est dans e lambda i plus 1, bah c'est bien ça, il s'écrit xi plus 1, et de l'autre côté, comme il est dans la somme de e lambda 1 plus 1 lambda 2, plus etc., jusqu'à e lambda i, il peut s'écrire x1 plus x2, etc., plus xi, où chacun des x machins appartient à e machin. Okay ? D'accord, donc j'ai cette égalité-là, et ben je vais faire u de cette égalité-là, donc ça veut dire que u de xi plus 1 est égal à u de x1 plus x2, etc., plus xi. Bon, à droite, vous voyez que c'est linéaire, donc ça va faire u de x1 plus u de x2, plus etc., plus u de xi. Ok, donc xi, par exemple, il est dans E lambda I, donc ça veut dire que U de XI c'est lambda I XI, d'accord, donc je fais ce truc là pour tous les X machins, d'accord, donc le premier, donc U de XI plus 1, ça va me donner lambda I plus 1 fois le vecteur XI plus 1, après j'avais U de X1, donc ça va me donner lambda 1 X1, U de X2, ça me donne lambda U de X2, etc., jusqu'à lambda I XI. Ok, donc j'ai deux égalités, la première c'est celle qui me donne XI plus 1 est égal à X1 plus X2, etc., plus XI, et la deuxième c'est lambda X1, xi plus 1 fois xi plus 1 est égal à lambda x1 plus lambda 2x2, etc. jusqu'à lambda i xi. Okay, donc la première égalité, je vais la multiplier par lambda xi plus 1, et puis je vais retrancher à la deuxième. D'accord, donc en fait, dans la première égalité, quand je multiplie par lambda i plus 1, d'accord, j'ai des lambda i plus 1 partout comme coefficient, et je fais moins la deuxième, donc vous voyez que le coefficient de, enfin, que le truc en xi plus 1, il va faire 0, puisque c'est lambda i plus 1, xi plus 1 des deux côtés, d'accord. Et puis à droite, donc, ça va me donner la différence entre lambda i plus 1 moins lambda 1 fois x1. Pour x2, pareil, je vais avoir lambda i plus 1 moins lambda 2, etc. Ok ? Donc j'ai cette somme-là, et cette somme-là vaut 0. Ok ? Voilà. Et qu'est-ce que je peux dire ? Eh bien, je peux dire que, par mon hypothèse de récurrence, qu'est-ce que je savais ? Je savais que e lambda 1, e lambda 2, etc., jusqu'à e lambda i, elle était en somme directe. Donc si la somme de certains de ces vecteurs est nulle, ça veut dire que chacun des vecteurs est nul. Okay, vous voyez que les coefficients lambda i plus 1 moins lambda 1, et il est non nul celui-là, puisqu'on a dit que toutes les valeurs propres étaient différentes. Pareil pour le coefficient lambda i plus 1 moins x2, d'accord, c'est nul. Ok, donc ça, forcément ça veut dire que ce sont les x1 plus x2, etc., plus xi qui est nul. Ok, et vous en déduisez que donc, voilà, que donc le vecteur, que l'intersection, pardon, de e lambda 1 plus en lambda 2, etc., plus en lambda i, inter e lambda i plus 1, bah, c'est réduit à 0. Okay, donc voilà pour la démonstration avec la méthode qu'on n'aime pas, celle qui dure 2 heures, comme vous avez vu. D'accord, donc on passe à la question d'après. Donc là, qu'est-ce que j'ai démontré ? J'ai démontré que les valeurs propres, les sous-espaces propres sont en somme directe. Alors, il y a un peu d'après, donc c'est pour rappeler quelques trucs sur les polynômes annulateurs. Donc, on vient de voir le cours, enfin, dans la vidéo précédente. Voilà. Donc, je vous rappelle qu'un polynôme annulateur, c'est quoi ? Bah, c'est un P tel que P de U soit égal à l'anthropomorphisme nul. Et qu'on a démontré que si lambda était une valeur propre de U, donc si lambda appartient à un spectre de U, alors P de lambda est égal à 0. Donc, ça me disait quoi ? C'était que je devais chercher les valeurs propres de U parmi les racines du polynôme annulateur de U. Okay, alors maintenant, comme je regarde les sous-espaces stables, etc., les sous-espaces propres, je vais avoir besoin de cette petite proposition. Donc je vais considérer U un endomorphisme qui laisse stable F. Donc c'est-à-dire que U restreint à F, c'est un endomorphisme de F dans lui-même. Okay, donc ça, je l'appelle U', celui-là. Et donc j'ai considéré un polynôme annulateur P qui annule U, alors P annule aussi U'. C'est assez évident. Pourquoi ? Parce que si je fais P, donc mon polynôme de U' de X, avec X qui est dans F, puisque U', hein, il ne peut l'appliquer qu'à des éléments de F, d'accord ? Bah ça va revenir à appliquer U' à X, donc c'est-à-dire, cette définition, c'est que c'est U appliqué à X, ok ? Donc ça fait PU de X, mais PU, de toute façon, il est nul pour tout le monde, donc ça va faire 0, ok ? Alors, ça c'est intéressant, donc je rappelle, hein, si U' est la restriction de U à un sous-espace stable, alors tout polynôme qui annule U annule aussi U'. Donc de ça, on va en déduire quoi ? On va en déduire que tous les polynômes annulateurs de U' vont diviser les polynômes annulateurs de U. Voilà. Alors, un petit complément sur les polynômes annulateurs, donc j'en suis à la diapositive numéro 10, c'est quoi ? C'est que forcément, il va exister des polynômes annulateurs. Alors déjà, pourquoi ? Donc U, il appartient à L de E. Et L de E, c'est un espace vectoriel de dimension n carré. Pour le voir, c'est plus facile avec les matrices, d'accord ? Les matrices associées à l'endomorphisme U, c'est une matrice n fois n. Donc la dimension de l'ensemble de ces matrices-là, c'est n carré, d'accord ? Et donc si je prends la famille identité U, U carré, U3, etc., jusqu'à U, n carré, d'accord ? Bah, c'est une famille de n carré plus 1 élément, vecteur, si on veut. Donc forcément, elle est liée, puisque l'espace vectoriel de dimension n carré, donc il existe une combinaison linéaire, un coefficient non nul, qui soit nul. Okay, Et donc voilà, vous avez exactement P de U qui est égal à 0. Okay, avec P, c'est le polynôme alpha, I, alpha plus alpha 1x plus alpha 2x2, etc. Okay, voilà, donc il existe forcément un polynôme annulateur, donc c'est pas bête de se dire que bah, je vais trouver des polynômes annulateurs et puis je vais chercher les valeurs propres pardon, de U dans les racines de ce polynôme annulateur-là. D'accord ? Voilà, alors encore mieux, on a l'existence d'un polynôme minimal. L'existence, elle est théorique, vous allez voir. Donc je vais considérer π un polynôme non nul unitaire de plus petit degré parmi les polynômes annulateurs de U. Il existe des polynômes annulateurs, donc l'ensemble est non vide, donc je peux considérer le polynôme annulateur non nul de degré minimum. Okay, et je le demande qu'il soit unitaire, comme ça il est unique. C'est le polynôme annulateur, d'accord, unitaire. Voilà, et donc maintenant qu'est-ce que je vois? Je vois que tout polynôme annulant U est en fait un multiple de ce polynôme π. Alors pourquoi? Démonstration. Ok, donc pi existe, donc je vais diviser p, un polynôme annulateur de u, par pi. Donc division euclidienne, donc p est égal à qpi plus r, avec le degré de r qui est strictement plus petit que le degré de pi. Maintenant j'applique donc cette égalité à l'endomorphisme u, ça me fait que p de u est égal à q de u rond pi de u plus r de u. Ok, mais quand je regarde bien, p de u ça vaut 0, pi de u ça vaut 0, puisque ce sont des polynômes annulateurs, donc ça veut dire que r de u est égal à 0. R de U est lui-même un polynôme annulateur. Mais on sait que le degré de R il est strictement plus petit que le degré de pi. Et qu'est-ce que j'ai choisi pour pi? J'ai choisi le polynôme annulateur bon, unitaire non nul de plus petit degré. Donc par la minimalité du degré de pi, j'en déduis que R c'est forcément le polynôme nul. D'accord? Et voilà, donc vous en déduisez que pi divise forcément p et que donc tout polynôme annulateur de U est un multiple de pi. Alors ça c'est super, simplement pour calculer ce polynôme pi minimal, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut que je connaisse tous les polynômes annulateurs et que je prenne le plus petit, le unitaire de plus petit degré. Et vous comprenez bien que pour calculer tous les polynômes minimales de U, ça va être un peu compliqué. Hein. Donc c'est pour ça qu'on va se tourner vers un polynôme que l'on va pouvoir calculer, donc ça va être le polynôme caractéristique, diapo 11 donc. Donc la définition c'est quoi? C'est que c'est le polynôme si u de x qui est défini comme étant le déterminant de u moins x identité. Donc déjà vous voyez que c'est une définition constructive, je peux la calculer en faisant un déterminant par exemple d'une matrice. Voilà. Et donc j'ai le très important théorème de Kelly-Hamilton qui me dit que ce polynôme caractéristique c'est un polynôme annulateur de u. Donc je viens voir que l'ensemble des valeurs propres de u va être cherché parmi les racines du polynôme caractéristique. Et voilà, et donc ça va me permettre de chercher les valeurs propres de U parmi les racines de psi de U, parce que je sais factoriser psi de U et déduire quelles sont ces racines. Voilà. Et alors, encore mieux, c'est dans la diapo numéro 12, encore mieux, et bien toutes les racines de psi de U sont des valeurs propres de U. Alors, voyons pourquoi. Donc, je vais passer, au lieu de prendre l'endomorphisme, je vais considérer sa matrice. Donc le polynôme caractéristique, en fait, ça va être le déterminant de la matrice moins lambda identité. Ok, donc je sais que j'ai un lambda tel que, donc racine du polynôme, c'est-à-dire que det de a moins lambda i n est égal à 0. Je vais montrer que lambda est une valeur propre de a ou de u, l'endomorphisme associé. Okay, donc qu'est-ce que ça veut dire que le déterminant d'une certaine matrice est nul? Ça veut dire que la famille pardon, des vecteurs colonnes est liée. Donc il existe des coefficients tels que la combinaison linéaire pardon, avec ces coefficients-là des vecteurs colonnes est égale à 0, tous les coefficients étant non nuls. Ok, donc ça veut dire quoi? Pour multiplier les vecteurs colonnes par des coefficients, eh bien, il faut que je fasse la multiplication par un grand X à droite de la matrice. Ok, quand on multiplie la matrice par un vecteur à droite, ça consiste à faire des combinaisons linéaires sur les colonnes. Donc il existe un x non nul tel que a moins lambda in x est égal à 0, c'est-à-dire donc que ax est égal à lambda x et vous venez de trouver grand x c'est le vecteur qui représente c'est la matrice colonne pardon qui représente le vecteur petit x, vecteur propre de u. Ok, donc voilà, donc j'en déduis bien que lambda appartient à un spectre de U, c'est seulement si lambda est une racine de U. Alors ça c'est vraiment très intéressant parce que avant, quand j'avais un polynôme annulateur, bon ben je suis d'accord, les vecteurs propres ils étaient dans les racines du polynôme annulateur, mais je ne savais pas que toutes les racines du polynôme annulateur étaient des valeurs propres. Ok, évidemment ça ne marchait pas tout le temps. C'était vrai pour le polynôme minimal, mais il est très difficile à calculer a priori. Par contre, là, on a le polynôme caractéristique qui nous permet d'avoir, donc, je calcule les racines de ce polynôme-là et je trouve exactement toutes les valeurs propres de U, c'est super. Alors, j'ai encore un petit truc, c'est que la dimension du sous-espace propre E lambda est inférieure ou égale à l'ordre de multiplier C dans lambda dans le polynôme caractéristique. Alors, pourquoi? Ok. Imaginons donc que je considère E lambda, donc je considère U', la restriction de U à E lambda. Je sais déjà que U', hein, c'est donc une homothétie sur E lambda, c'est-à-dire que le polynôme caractéristique, puisque l'homothétie, sa matrice, c'est lambda identité, donc son polynôme caractéristique, ça va être lambda moins x, puissance la dimension de ma matrice, c'est-à-dire ici la dimension de E lambda. Et qu'est-ce que je sais? Eh bien, je sais que tout à l'heure, j'ai vu que le polynôme caractéristique de la restriction de Xu' divise Xu. Voilà, donc forcément, la puissance de x moins lambda dans le polynôme caractéristique de U, elle est supérieure ou égale à la dimension de E lambda. Mais je ne sais pas si elle est égale. Voilà. Dernière diapositive, donc là je passe vraiment à la version matricielle. On a des invariants dans les polynômes caractéristiques, c'est-à-dire donc je considère A la matrice de l'entorpe U dans la base B, et je sais que forcément donc le déterminant de A moins xin, alors regardez, la puissance de x puissance n, ça va être le coefficient de x puissance n, ça va être quoi dans ça? Bah pour trouver le x puissance n dans cette matrice là, il faut que je multiplie en fait tous les éléments diagonaux. Donc je vous rappelle que le déterminant, hein, c'est la somme sur toutes les permutations machin de a i lambda de sigma i, pardon, c'est-à-dire en fait que je vais donc devoir multiplier des coefficients tels que n coefficients, pardon, tels que chacun ne soit jamais sur la ligne ou la colonne d'un autre. Okay, donc je vais à un moment donné, je vais multiplier le coefficient a1 par a22 par a33 par a44, etc. D'accord? Ok, donc la seule façon d'avoir x puissance n, c'est de multiplier donc tous les éléments diagonaux, et comme c'est a moins x fois moins x, d'accord? Donc il y a le moins, donc je vais multiplier moins x n fois, et donc ça me donne moins 1 puissance n xn. Ok? Voilà. Comment ne jamais avoir de x? Eh bien, c'est en prenant donc tous les coefficients, et donc le déterminant de a, ça va être mon dernier coefficient. Voilà, donc mon polynôme, en fait, je sais qu'il y a certains invariants. Les invariants, c'est donc moins 1 puissance n xn, plus moins 1 puissance n moins 1, parce que le polynôme caractéristique est alterné, d'accord? Il y a des plus moins partout. Après, ça va être la trace de a fois xn moins 1, plus moins 1 puissance n moins 2, la trace de la comatrice, etc. Donc ça, on peut le démontrer, hein, ces trucs. Donc je l'ai fait là pour moins 1 puissance n, je ne sais pas si c'était clair. Mais on peut le démontrer après que c'est la trace de A pour le deuxième coefficient, puis la trace de la comatrice, c'est beaucoup plus compliqué pour le troisième, etc. Et donc le déterminant pour le dernier. Ok ? Voilà, et donc avec ça, on peut faire des petits trucs du style deux matrices semblables en même polynôme caractéristique. Je fais les démonstrations en dessous. Hein. Le polynôme caractéristique de la matrice A, c'est quoi ? C'est d'être de A moins xin. Mais A est semblable à B, c'est-à-dire qu'il existe P, une matrice de passage, c'est-à-dire que A soit égal à P-1BP, par exemple. Donc j'écris A, je le transforme en P-1BP. Identité, je dis que c'est P-1IP. Ok, donc j'ai P-1 des deux côtés des matrices. Donc je les mets devant, je factorise, quoi. Donc d'un à gauche par P-1, à droite par P, ce qui me donne que ça me fait le déterminant de P-1 fois B-X identité fois P. Alors X, hein, c'est une constante, hein, ici. Un vecteur. Ok, et donc ça me fait par le déterminant, puisqu'il est multiplicatif, donc le déterminant de P-1 fois matrice B moins X fois P, ça me donne le déterminant de P-1 fois le déterminant de B moins X identité fois le déterminant de P. Je sais que le déterminant de P-1 c'est l'inverse du déterminant de P, ce qui me donne donc d'être de P moins X IN, et donc ça me fait le polynôme caractéristique de la matrice B. Voilà, donc on peut faire des petits trucs comme ça aussi avec les matrices. Qui est pas si mal. Donc voilà pour le deuxième cours sur la réduction des endomorphismes. Le troisième, on va voir donc les critères de diagonalisation ou de trigonalisation via les polynômes caractéristiques.